France Culture.
Le journal vous est présenté par Diane Berger.
Bonjour à toutes et tous, il est 9h sur France Culture. Le spectre d'Alexeï Navalny en Russie, l'ennemi de Vladimir Poutine, dont la mort a été annoncée il y a un an exactement. Malgré la répression menée contre ses proches, des partisans de l'homme politique continuent de fleurir sa tombe dans la banlieue sud de Moscou. Le débat public semble impossible au Venezuela concernant la réforme constitutionnelle souhaitée par Nicolas Maduro, un texte qui inquiète les opposants du président contesté. En France, François Bayrou répète à nouveau qu'il n'avait pas entendu parler des violences à Notre-Dame de Bétharram, cela quand il était ministre de l'Éducation nationale dans les années 90. De fait, un rapport d'inspection de 1996 décrit un lieu où les élèves n'étaient pas brutalisés. Et puis, c'est une statue exceptionnelle mise en vente aux enchères à Orléans cet après-midi, un bronze de Camille Claudel, redécouvert par hasard, une œuvre qui appartient à une série dont quasiment toutes les autres pièces ont disparu. C'était le 16 février 2024, il y a un an exactement, les autorités russes annonçaient la mort d'Alexeï Navalny, l'opposant le plus notoire de Vladimir Poutine, décédé dans une prison de l'Arctique, dans des circonstances encore troubles. Moscou assure qu'il aurait fait un malaise, une version qui ne convainc pas son entourage. 2 semaines après sa mort, des milliers de Russes ont bravé la répression pour assister à ses obsèques. Aujourd'hui, ses partisans se recueillent en silence. C'est un reportage de notre correspondant en Russie, Sylvain Tronchet.
Dans le petit cimetière de Borisovo, dans la banlieue sud de Moscou, la tombe d'Alexeï Navalny est immédiatement reconnaissable, toujours fleurie, avec un immense portrait de l'opposant et souvent quelqu'un pour s'y recueillir, comme Sofia, en larmes, quand nous la rencontrons. C'est terrible ce qu'ils lui ont fait, nous dit cette femme de 48 ans, l'âge qu'aurait eu Alexeï Navalny. Sofia, comme Elisabeth qui arrive juste après, se sent orpheline dans leur parcours d'opposante au régime.
C'est très dur sans lui, il nous manque. C'est triste de ne plus avoir de leader. Quand j'entendais sa voix, c'était comme s'il me soutenait en tout.
Tous ceux que nous avons croisés devant la tombe d'Alexeï Navalny nous ont dit la même chose. Un an après, personne n'a repris l'espace qu'occupait l'opposant, pas même sa femme Yulia, explique Daniil.
Je pense qu'il est impossible de s'engager dans la politique russe si l'on n'est pas en Russie. C'est ce que disait Alexeï. Il y a des gens qui continuent son travail et nous les en remercions, nous les respectons. Mais la société russe ne les entend pas.
En Russie, les réseaux Navalny ont été réprimés, démantelés. Même ses avocats ont été poursuivis et condamnés à de lourdes peines de prison le mois dernier. Il ne reste qu'une tombe et une photo.
Malgré la répression, quelques commémorations sont prévues aujourd'hui en Russie. Des hommages aussi à l'étranger, notamment le chancelier allemand Olaf Scholz, qui salue la mémoire du militant, mort, je cite, parce qu'il s'est battu pour la démocratie. Le chef de la diplomatie américaine à Jérusalem aujourd'hui, début de la première tournée au Moyen-Orient de Marco Rubio, venu pour discuter avec ses alliés israéliens de la situation à Gaza. Le secrétaire d'État des États-Unis, qui n'arrive pas les mains vides, une cargaison d'armes lourdes américaines a été livrée dans la nuit. Le débat public est censé commencer ce week-end au Venezuela, au sujet d'une importante réforme de la Constitution annoncée par Nicolas Maduro quelques jours après son investiture en janvier. Le président vénézuélien, dont l'élection est contestée aussi bien dans le pays qu'à l'étranger, de lourds soupçons de fraude pèsent sur le scrutin. Et que compte-t-il faire donc avec cette nouvelle Constitution? Élément de réponse avec notre correspondante à Caracas, Alice Campagnol.
Une démocratie améliorée, c'est la promesse de Nicolas Maduro avec cette réforme. Mais pour le moment, peu de détails du texte ont été rendus publics. Ali Daniels est avocat, directeur de l'ONG Accès à la Justice.
C'est le premier problème. On ne sait pas sur quel sujet va porter la réforme constitutionnelle. Mais il y a tout de même des indices qui nous laissent deviner de quoi il va retourner. La commune, l'État communal va être utilisé comme excuse pour transférer la souveraineté du vote des citoyens à la commune. Et donc les élections vont devenir inutiles, insignifiantes.
De plus en plus de pouvoirs pourraient être transférés à de petites entités communautaires qui existent déjà, chargées par exemple de distribuer l'aide alimentaire ou de capter des votants pour le parti gouvernement. Malgré le débat public qui démarre dans la rue à Caracas, on ne sait pas grand-chose.
J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas sur quel sujet va porter la réforme.
Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Et pour Ali Daniels, rien d'étonnant.
N'importe quel propos, n'importe quelle phrase peut aujourd'hui justifier une arrestation. Il n'y a pas de débat public là où il n'y a pas de liberté d'expression.
Le texte de la réforme constitutionnelle devrait être soumis à un référendum cette année, mais après l'élection présidentielle contestée, plus personne ne croit vraiment au vote.
La presse argentine parle d'un crypto-scandale. Des députés d'opposition demandent même la destitution de Javier Milei, le président ultralibéral au pouvoir à Buenos Aires. Il a fait vendredi la promotion d'une crypto-monnaie, la Libra, qui s'est effondrée quelques heures plus tard. Les détenteurs initiaux de cette monnaie ont, eux, engrangé, selon des experts, plus de 107 millions de dollars. Dans un message sur le réseau social X, le chef d'État a tenté de se défendre. Je ne connaissais pas les détails du projet, je n'ai aucun lien évidemment avec l'entreprise privée. J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. C'est ce qu'a déclaré hier François Bayrou après avoir rencontré le collectif des victimes de Notre-Dame de Bétharram. Le Premier ministre accusé d'avoir couvert ce collège-lycée catholique quand il s'occupait de l'éducation de 1993 à 1997. Il a notamment souligné avoir fait organiser une inspection générale de l'établissement en 1996 en réponse à une première plainte d'un élève. Si aujourd'hui l'établissement scolaire est visé par plus d'une centaine de plaintes pour des faits de violence, mais aussi d'agressions sexuelles et de viols, le rapport issu de cette inspection à l'époque était rassurant selon François Bayrou. Le document que s'est procuré Radio France conclut en tout cas que Notre-Dame de Bétharram n'était pas vue à l'époque comme un établissement où les élèves sont brutalisés. Raphaël Ebenstein.
Tous les élèves que j'ai entendus, sauf un qui a été plus nuancé, ont clairement dit qu'ils vivaient très normalement leur scolarité, sans subir de châtiments corporels et dans un climat de confiance. Voilà ce qu'écrivait en avril 1996 l'auteur du rapport de l'inspection pédagogique régionale, après s'être rendu à Notre-Dame de Bétharram quelques jours auparavant, alors que des articles de presse mentionnaient des violences commises au sein de l'établissement. Un concours malheureux de circonstances, selon le rapport, après avoir déroulé les faits concernant un élève et une enseignante. Il jugeait toutefois le nombre de surveillants insuffisant pour assurer la discipline dans les dortoirs de l'internat, qu'il appelait par ailleurs à transformer en réduisant le nombre de lits. Il préconisait aussi notamment de renoncer au principe des élèves surveillants, ceux de seconde ou première ayant été conduits à s'occuper des collégiens de 6e, 5e et 4e.
François Bayrou promet des magistrats supplémentaires pour faire avancer l'enquête et le début d'une réflexion pour prendre en charge les victimes de violences sexuelles, même sans condamnation pénale. Une œuvre exceptionnelle de Camille Claudel est aux enchères aujourd'hui à Orléans. Une rare version de sa sculpture « L'âge mûr », allégorie de sa passion pour Rodin, créée après leur rupture. Une statue en bronze, similaire, quoiqu'en taille réduite, à celle que détient le musée d'Orsay. On en avait perdu la trace depuis plus de 100 ans. Et elle a été retrouvée complètement par hasard lors d'un inventaire de succession dans un appartement près de la Tour Eiffel. Benoît Grossin a rencontré le commissaire-priseur qui est tombé nez à nez avec ce joyau. C'était au mois de septembre.
Quand j'ai découvert cette œuvre, l'émotion que j'ai ressentie, un trésor est réellement qui couvre tous les superlatifs.
Dans un appartement inoccupé depuis 15 ans, empli de poussière, sans électricité, Mathieu Semon fait cette découverte romanesque à la lumière de son téléphone.
L'ensemble des meubles de l'appartement avait été recouvert de draps, de couvertures. Je suis arrivé devant cette commode avec une masse informe au-dessus et en soulevant le drap, je suis tombé nez à nez avec l'âge mûr de Camille Claudel. Un groupe autobiographique dans lequel Camille se serait mise en scène en train d'implorer Rodin, qui était son maître, son mentor, aussi son amant, mais qui a fait le choix de sa maîtresse officielle, qui va même devenir sa femme, qui s'appelait Rose, et Camille étant la plus jeune des personnages.
Une jeune femme agenouillée qui tente, sans y parvenir, de toucher la main de l'homme, Rodin, qui se laisse entraîner par la vieillesse, comme emporté par une vague. Cette œuvre signée porte le cachet numéro 1 d'une série dont la quasi-totalité a disparu, à l'exception du numéro 3 qui se trouve au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. Et pour ce premier modèle de plus de 70 kilos, sorti du moule en 1907, la qualité de la fonte est particulièrement remarquable selon l'expert en sculpture Alexandre Lacroix.
On n'a pas l'habitude à cette époque-là de fondre des sculptures aussi complexes, avec tant de creux, des parties qui sont très saillantes. C'est une fonte au sable par Eugène Blot, qui était un soutien. Vraiment, c'est virtuose. C'est quand même même un jalon de l'histoire de la sculpture moderne, très novatrice, qui a une énorme présence quand on passe à côté. On ressent à la fois le drame, la douleur et en même temps la beauté, la force de l'œuvre.
Cette œuvre, véritable testament artistique de Camille Claudel, est estimée entre 1,5 et 2 millions d'euros.
La vente commencera à 16h dans la salle de l'Institut du Conservatoire. Temps parfois couvert mais sec aujourd'hui avec de belles éclaircies et des températures fraîches sur les deux tiers nord. Plus chaud, voire étonnamment chaud dans le sud-ouest autour des 15 à 18 degrés.